Bonjour à tous, bienvenue dans Kaléidoscope, une émission mensuelle pour bousculer les clichés sur la maladie mentale et pour découvrir l'histoire de la psychothérapie institutionnelle. Aujourd'hui, mes invités vont nous éclairer sur le fonctionnement des ateliers et des contrats. Et pour cela, nous sommes encore une fois confortablement installés dans la bibliothèque de la clinique de la Chênaie. Alors, je vous présente tout de suite les participants à cette émission. Gwenvel, Julien, Roselyne, Laetitia, Rémi, François. Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour, François. Alors, Julien, je vais te passer tout de suite la parole. Tu vas nous représenter un petit peu le projet général de cette émission, hein, le but. Voilà. Et puis après, on embrayera sur le sujet des contrats.
Ça marche. Eh bien, du coup, cette émission s'appelle Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur, qui se veut de parler du mouvement de la psychothérapie institutionnelle, comme on la pratique à différents endroits, notamment à la Chênaie, puisque c'est ici que nous sommes basés. Donc aujourd'hui, on est à la troisième occurrence de cette émission, qui va parler du coup des contrats et des ateliers au sein de la clinique.
Alors, on va démarrer tout de suite peut-être, hein, oui, Gwenvel. Ouais. Tu peux nous présenter justement comment ça fonctionne, l'histoire, comment ça s'est mis en place.
Oui. Alors effectivement, là, on va parler des ateliers qu'on peut faire grâce au club de la Chênaie et aussi des contrats qui sont en fonctionnement spécifique au mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Et c'est vraiment un fonctionnement spécifique qu'on a en psychiatrie. L'origine de ça, c'est que dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, on prend conscience que le fonctionnement de l'établissement hospitalier doit prendre le contre-pied, enfin en tout cas être différent du modèle strictement médical. Dans le milieu hospitalier général, quand on a un problème médical, que ce soit une jambe cassée ou une maladie, la tendance avec le principe de la médecine premier qui s'appelle primum non nocere, premièrement ne pas nuire, on va en général immobiliser la personne, l'hospitaliser, lui prodiguer des soins par des professionnels compétents jusqu'à ce que la personne ressorte et retourne à sa vie quotidienne habituelle. Mais en psychiatrie, on est dans un autre modèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas hospitaliser les gens en les immobilisant et en les privant de leur vie quotidienne. Ça a des effets délétères puisque la personne est seule en prise avec la maladie, que ce soit le délire, les hallucinations, la catatonie ou autre. Et quand on immobilise les personnes, quand elles sont hospitalisées, qu'elles sont isolées dans la solitude, ça ne les aide pas. Donc de ce point de vue-là, le modèle de soins entre guillemets hospitalier et médical n'est pas la réponse adaptée en psychiatrie. Oui, ce constat-là, il date d'il y a très longtemps, puisque à la fin du XVIIIe siècle, quand la psychiatrie est née, à peu près à la période de la Révolution, Pinel, par exemple, qui est présenté comme le père de la psychiatrie, avait fait plusieurs voyages dans toute l'Europe et avait constaté que dans un des établissements où les patients avaient des activités, notamment soit de travail, soit d'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui atelier ou autre, ces patients-là allaient mieux. C'est-à-dire qu'être en activité permet de lutter contre le délire, la maladie, d'avoir un appui face au mal-être. Et du coup, il pouvait dire, et on a des textes assez anciens qui datent de la fin des années 1700, que, par exemple, dans ces hôpitaux-là, les bourgeois ne guérissaient pas parce qu'ils ne travaillaient pas, contrairement à d'autres. Et du coup, ils étaient vraiment seuls face à la maladie. Ça, c'est un constat ancien. Mais pour autant, en tant que club thérapeutique, on peut constater que les politiques publiques actuelles prennent insuffisamment en compte cette réalité-là, dans la mesure où même si, du point de vue du ministère, la Haute Autorité de Santé, ils ont tout un discours du point de vue de la réinsertion sociale, la réhabilitation sociale des patients en psychiatrie, des pensionnaires, etc. En réalité, on peut avoir l'impression qu'ils ne défendent pas suffisamment les activités dans les établissements de soins, notamment à travers les clubs thérapeutiques, puisque les clubs thérapeutiques permettent d'amener tout un tas d'activités sociale, une vie quotidienne, une ambiance au sein de l'hôpital qui sont des aides pour les personnes.
Est-ce qu'on peut quand même dire que de manière générale, la psychiatrie a quand même fait quelques progrès pour prendre en compte quand même ce côté-là justement où il ne suffit pas de donner des médicaments à quelqu'un d'une part le guérir et d'autre part éviter qu'il dérange ou qu'il...
En réalité, oui, tous ces progrès-là ont été amenés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant même les médicaments, en fait, le mouvement de la psychothérapie institutionnelle avait commencé dans les hôpitaux à la fin des années 40, début 50, à amener des nouvelles activités, etc., à sortir les patients de l'asile tel qu'il existait à l'époque pour ouvrir sur autre chose et vraiment avoir une offre de soins en psychiatrie qui soit vraiment différente, plus tournée vers l'extérieur, instaurer plus d'hôpitaux de jour, par exemple, etc., des consultations externes, tout un tas de dispositifs, et y compris des activités. Et puis, les premiers médicaments sont arrivés à partir de 1952. Et donc, là, contrairement au mouvement de la psychothérapie institutionnelle qui n'avait intéressé que des jeunes psychiatres militants en France, les médicaments ont intéressé tous les psychiatres dans leur ensemble. Et du coup, c'est devenu rapidement comme si ça faisait le médicament faisait illusion, faisait paravent par rapport à ce qui se passait avec les activités auparavant. Et en tout cas, toute la profession s'est orientée vers les médicaments, puisque tout de suite, la psychiatrie devenait enfin, grâce aux neuroleptiques, les débuts des neuroleptiques, il y avait l'espoir que la psychiatrie soit complètement affiliée au milieu médical. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que la réponse médicale ne suffit pas. Et là, on parle d'atelier justement pour rappeler, pour dire qu'il est nécessaire d'apporter une autre réponse que les seules réponses médicamenteuses, puisque ça ne suffit pas en psychiatrie. Et ce serait faux de le prétendre et assez maltraitant.
Est-ce que justement, on peut embrayer sur la manière dont ça fonctionne voilà, les contrats, les ateliers. On va parler des ateliers d'abord. Julien ?
Oui, alors les ateliers, ce sont des outils qui se veulent thérapeutiques, qui dépendent du club thérapeutique, qui finance et qui fait vivre ces ateliers. Ils sont thérapeutiques dans le sens où ils sont faits ensemble avec les moniteurs et les patients, avec un souci, une attention collective de chacun, d'en faire un outil qui fait du bien à chacun. On réfléchit ensemble à quels sont les besoins d'une personne. Est-ce que c'est adapté pour lui d'aller chanter? Est-ce que c'est adapté pour lui d'aller faire de la mosaïque? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Et on soigne particulièrement aussi l'ambiance, le plaisir d'être ensemble et de faire ensemble à travers tous ces ateliers qui sont autant d'outils différents et qui peuvent parler à certains et pas à d'autres.
Est-ce qu'on peut rentrer dans le concret, justement, Laetitia?
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler, vous participez à des ateliers?
Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'il y a énormément d'ateliers, qu'ils soient artistiques, sportifs, ça peut être de peinture, dessin, je donne des exemples comme ça, chant, musculation, randonnée, etc.
Atelier radio.
Atelier radio.
On peut se lancer dans une musique.
Atelier musique, enfin, il y en a vraiment beaucoup. C'est très riche et moi ce que je voulais raconter aussi c'est que comme quoi chaque pensionnaire est vraiment partie prenante de la vie collective et de la vie de la chaîne, c'est que on peut aussi, et ça m'est arrivé d'ailleurs, on peut faire des propositions d'ateliers, en parler au BE par exemple. Et c'est comme ça, par exemple...
Ouais, excusez-moi, le BE, pour rappeler...
Alors, le BE, c'est le bureau exécutif, donc c'est une fois par semaine. Et là, on parle un tas de choses, on fait le récapitulatif de toutes les activités, sorties, etc., qui sont passées et à venir. Okay. Oui, donc il y a énormément d'ateliers. Et je vais vous parler d'une expérience personnelle, c'est pas pour parler de moi, mais bon, ça va vous donner une idée. Avec une copine de chambre, comment elle s'appelle déjà, Lorraine. On était fans toutes les deux de mosaïque et on était assez tristes qu'il n'y ait pas d'atelier mosaïque. Donc on l'a présenté, on l'a proposé. Ça a été retenu tout de suite. Il y a deux monitrices, Will, pour ne pas la citer, et Laurence, qui se sont greffées là-dessus. Et à toutes les quatre, on a monté l'atelier mosaïque qui tient toujours... qui a toujours lieu d'ailleurs. Et alors ce qui était super, donc on est allé faire de la récup, on était à la Briard, récupérer dans une décharge des mosaïques un peu abîmées, tout ça. Enfin, les mosaïques connaissent bien cet endroit de récupération. Et donc, Lorraine et moi, nous avons enseigné la technique de la mosaïque aux deux monitrices. Et ensuite, on est devenus nous-mêmes enseignantes à toutes les personnes qui venaient à l'atelier. Et c'était top.
Donc c'est une belle histoire de transmission aussi.
Oui,
des savoirs.
C'est pour dire voilà, qu'on est enfin, il y a vraiment une écoute particulière quand des pensionnaires ont des propositions à faire. Et là, je pense que c'est quand même une caractéristique de la psychiatrie institutionnelle.
Voilà. Bah, du coup, je rebondirai là-dessus. Là, c'est une notion qu'on a aussi dans le mouvement, c'est la notion de co-soignant. C'est qu'on considère qu'il n'y a pas que ceux qui sont considérés comme soignants qui peuvent apporter, soutenir, faire du bien aux autres. Mmh. Ça va dans tous les sens.
Exactement.
Entre patients, entre soignants, soignés, dans les deux sens. C'est une notion très importante qu'on rencontre quotidiennement, notamment pendant les ateliers.
Alors, est-ce que dans les ateliers, il peut y avoir aussi... donc, parce que là, c'était, vous parliez de mosaïque, mais c'était des intervenantes extérieures qui venaient de l'extérieur en tant que, je dirais, prestataire ou animatrice, ou comment ça se passe? Il y a d'autres... Par exemple, si vous avez un atelier chant, est-ce que c'est une professeure de chant extérieure qui vient?
Tout
ou,
à fait.
Ou ça peut être aussi un moniteur ou une monitrice qui pratique le chant?
Ça peut être les deux.
Voilà, c'est très ouvert.
C'est très ouvert. Pour le chant, on n'avait personne sous la main, si je peux dire. Donc, on a fait appel à une prof de chant, Esther. Salut Esther, si tu nous écoutes. Et donc, on a un nouvel atelier qui a été créé. Donc, à partir de... On a essayé la formule au mois de juillet. Et comme ça a bien pris, on a créé l'atelier à partir du mois de septembre. Et donc, elle vient tous les jeudis, pour être concrète, ça a lieu tous les jeudis, de 14h30 à 16h. Et c'est super, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui existe à la Chênaie comme atelier? Donc, on a parlé de la mosaïque, du chant. Il y a quoi encore?
Il y a aussi le dessin-peinture. Il y a aussi... La poterie, l'atelier poterie. Il y a aussi musique. L'atelier musique, oui.
L'atelier bois.
L'atelier bois. L'atelier écriture, poésie.
L'atelier poésie aussi.
Impro.
Improvisation, théâtrale.
La gym douce qui s'appelle...
Feldenkrais. Gymnastique douce, Feldenkrais.
La rando.
La randonnée.
La gazette.
La gazette.
La piscine.
La souk.
Ça va trop vite. la souk, c'est quoi?
Ça
la souk
donne une petite la idée souk. De la quantité de choses.
Ah oui. Que
l'on la propose. Souk, c'est le journal interne de la clinique.
Ouais. C'est ça, voilà. Et que j'ai cru voir à la librairie Labbé, hein. C'est ça?
Alors
ça,
non, ça, à la librairie Labbé, c'est encore un autre atelier, justement, l'atelier Gazette.
La Gazette, voilà.
La souk, c'est bien un journal interne à la clinique et écrit par les pensionnaires, les moniteurs, etc. On donne plein de nouvelles dedans. Et puis, dans la Gazette, c'est une gazette, un format un peu plus important. Ça fait combien? Ça fait 12 pages, la Gazette? 8 à 12 pages?
Oui, c'est ça, ouais. 8 à 12 pages.
Ouais. Mmh. En couleur, qu'on peut trouver à la librairie Labbé notamment, mais à d'autres endroits, à Blois aussi.
3 éditions par an, et c'est un journal qui est interclub, ouais. qui est fait en collaboration avec d'autres clubs thérapeutiques, dans d'autres cliniques ou dans d'autres hôpitaux.
Notamment Sommery, La Borde,
Château Renaud.
Pour ceux qui connaissent pas, donc ça reste dans le Loir-et-Cher. Bon, Château Renaud, c'est dans l'Indre.
Ouais.
L'Indre-et-Loire. Donc voilà, mais sinon ça reste La Borde, c'est pas loin. Ouais. Pour situer un petit peu. Ouais. Voilà. C'est marrant, il y a un nid de clinique psychiatrique dans le Loir-et-Cher. Hein. Ouais. Faut croire que la région s'y prête.
Exactement.
à l'apaisement. Est-ce qu'on écouterait le témoignage de Marie-Hélène, qui raconte un petit peu son expérience
avec les ateliers.
Avec les ateliers.
Ouais.
Laetitia, avant, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, pour par rapport aux ateliers, il faut savoir que le club prend en charge une grande partie des frais, et si on a tout ce foisonnement et tout ce choix formidable d'atelier, c'est parce que le club est là. Par exemple, les cours de chant, je ne me souviens plus combien ça coûte, mais ça ne nous coûte que la moitié, quoi.
Oui.
Et ça c'est vraiment super.
Donc tous les ateliers, pour rebondir, tous les ateliers demandent quand même une participation financière.
Pas tous.
Loin de là. D'accord.
Seulement ceux où il y a un participant, enfin un intervenant extérieur.
C'est ça.
Et encore. Non, même pas tous. Pour le chant, oui. Mais par exemple, pour la musculation, il y a un intervenant extérieur, mais tout est pris en charge. Donc ça dépend vraiment. Mais la plupart des choses sont entièrement prises en charge.
Parce que faites par des moniteurs, tenus par des moniteurs.
Ah, oui.
Oui.
Et ce qui est une vraie richesse dans la pratique professionnelle, ce qui fait qu'on n'est pas seulement psychologue ou infirmier, c'est qu'on est aussi musicien, peintre, et on a toute une palette d'outils à vivre avec les gens.
Ah oui, à proposer.
On n'avait pas parlé de l'atelier écriture, que moi j'affectionne particulièrement.
Oh oui, Roselyne. Alors, on peut en parler tout de suite. Hein. On écoutera après le témoignage de Marie-Hélène.
Ouais. Alors, allez-y. C'est un creuset, l'atelier écriture, c'est un creuset qui donne libre cours à l'imagination du patient et également du moniteur qui dirige la séance. Ou alors, on se retrouve autour d'un thème, on écrit autour d'un thème parfois. Ou si c'est pas, le thème n'est pas désigné, c'est libre cours. Et le patient donne les cours donc à son imagination. On écrit des poèmes, on écrit des textes assez lyriques, des textes que je trouve assez extraordinaires, assez beaux quand même pour des gens qui sont malades. On ne ressent plus la maladie à ce creuset. C'est mon point de vue. Tout le monde est un peu libre, on voyage dans sa tête. Et puis, je trouve ça formidable.
Vous, c'est votre bulle, un petit peu, où votre imagination peut laisser, est complètement libre.
J'attends les samedis à 14h30, ça commence à 14h30 jusqu'à 15h30. Parfois, on dépasse légèrement, mais on ne voit pas passer le temps. Et après, je voudrais parler aussi de l'importance des ateliers dans la vie communautaire ici. Ces ateliers-là boostent la créativité des patients. On ne voit pas passer le temps. On ne reste pas seulement dans son monde de malade. On voyage. Ça fait du bien de sortir de ce milieu-là, de cette situation-là avec les ateliers. Donc, c'est une évasion. On ne s'ennuie donc pas. On apprend dans le même temps. On apprend et on se soigne le moral. Par contre, ce que je voudrais évoquer ici pour équilibrer un peu la communication, c'est d'utiliser ce canal-là de la radio pour parler des ateliers. Moi, il y a des ateliers que je ne connais pas. C'est vrai que je suis là il n'y a pas très très longtemps, mais par exemple, la radio, j'ai découvert fortuitement aujourd'hui sur un feuillet et j'ai demandé à un moniteur dont j'oublie le nom. Il m'a dit, tiens, c'est ici, c'est à la bibliothèque à telle heure. Donc, je ne savais pas. Si on peut parler de ces ateliers-là aux réunions ou bien à la salle à manger, tout le monde serait au courant. Comme ça, on pourrait choisir de participer ou pas.
Alors, vous le savez maintenant. En plus, vous pourrez transmettre à ceux qui ne savent pas encore.
Bien sûr.
et c'est le début. Et Studio Zef est vraiment heureux d'avoir ce genre d'émission, justement pour écouter les gens qui d'habitude ne parlent pas ou peu, en tout cas.
Oui, la voix des porte-parole.
Oui, bien sûr.
Des sans-voix, la voix des sans-voix.
Roselyne, on se retrouve tout à l'heure. Si vous voulez bien, on va écouter Marie-Hélène.
Hélène, est-ce que vous pouvez parler de ce que vous faites en atelier ?
En atelier, j'ai une musique, je chante dans un micro, des chansons de nouvelles et anciennes. Il y a d'autres musiciens qui chantent aussi, qui jouent des instruments.
Mmh. Ouais.
Il y a des patients aussi qui jouent du piano et de la guitare aussi.
Ouais.
Et j'aime bien chanter.
Mmh.
Ça fait longtemps que j'ai cet atelier-là.
Ça fait combien de temps ?
Ça fait une vingtaine d'années que j'ai cet atelier de musique.
Ah, oui.
Mmh. C'est aussi l'atelier impro. Mmh. Ça, c'est très bien aussi. Mmh. C'est improvisé. Mais un peu théâtral, parce qu'il y a des spectacles pas forcément en fin d'année. Aussi en fin d'année, mais pas qu'en fin d'année.
Ouais.
L'atelier musique aussi, et je...
Ouais.
J'ai chanté pour 31 décembre 2018.
C'est vrai.
Macumba et les bêtises.
Ouais.
Il y a une vidéo aussi. Il y a une vidéo aussi.
Oui.
Ça, c'est dimanche.
Ouais.
Il y a.
Un film qui est choisi.
Et voilà. Il y a un film qui est choisi par les patients. C'est aussi au vote.
Ouais.
Il y a trois films qui sont régulièrement renouvelés par Martine Rougeau, qui est dans la médiathèque à Chaille.
Ouais.
C'est l'atelier chant, c'est nouveau.
Mmh.
On a fait un petit spectacle le 1er janvier. Une dame de l'extérieur. et aussi la gymnastique à Jean-Crate,
ouais.
Qui est animée par une dame de l'extérieur aussi, qui est sortie d'ailleurs.
Oui.
Qu'est-ce que tu as vu comme atelier ? Il y a plein d'ateliers. Il y a la sortie de piscine aussi, c'est très intéressant.
Ah oui.
On y va en bus à la piscine de Tournesol.
Oui, toutes les semaines.
Oui. Il y a de l'écriture aussi, c'est très intéressant. Ah oui. C'est pas si facile que ça.
Et c'est vrai.
Voilà. Mais il faut faire un soleil avec un synonyme à l'intérieur, par exemple plaisir, et vous faire, il y a six rayons de soleil, et il faut que ça ait un rapport avec plaisir. Alors ça peut être gâteau au chocolat ou anniversaire, fête, paillettes. Il y a aussi 12 mots, il faut inclure les 12 mots dans un texte. R, randonnée,
ouais.
N, A, D, E, D, E. Il y a des trucs qu'il faut trouver sur le coup.
Ça s'appelle comment ça ?
Un acoustique.
Ouais.
Donc c'est un soleil.
Ouais.
Six rayons. C'est plus facile que l'acoustique.
Ouais.
Parce que P, A, O, M, A, D, E, c'est pas évident.
Ouais.
Il faut un O, alors moi je mets à l'ouest. R, randonnée.
Ouais.
M, Macmonde, pourquoi pas ? Ouais. Oui, mais c'est un rapport.
Ouais. Voilà.
Ah, les concerts, super, les concerts, ça c'est bien aussi.
Ouais.
J'ai participé aux trois résidences des chants, de patates et musique, pas du tout, de concerts qui viennent.
Oui.
Il y avait Tolten, alors lui il est formidable.
Ouais.
Parce qu'il fait son spectacle et il peut passer patient avant.
Ouais.
Il est dans cinq cliniques. Oui. Il y avait à Sommery, à Château-Renaud, à La Borde, la Chenet. Il a fait un atelier de couture, plus facile que ce qu'on fait d'ailleurs. Facile, oui. Comme quoi. Et après, le concert qu'il a fait chez Ney, il a fait son propre concert, il nous a fait monter sur une petite scène.
Oui.
Et chacun disait le texte qu'on a fait par rapport à l'atelier de couture.
D'accord.
Et tout le monde était appelé, tout le monde est venu.
Ouais.
Chanter mon mec à moi de Patricia Cage.
Ouais.
Elle était maligne, elle chantait, elle avait dit ton mec à toi. Tu dis mon mec à moi, elle dit ton mec à toi. La jeune femme qui s'occupait qui chantait dans le concert La Belle Autre. J'ai participé, je ne sais pas si longtemps que ça, c'était au mois d'avril dernière, à Tunisiac, la compagnie Ika.
Ika.
Ika. Ouais. On est allé à Chinon, il y avait un petit patelin, Chinon, un petit vieux, et en retrait, il y avait les caravanes fixes où on dormait. Sur trois semaines, il y avait deux jours, un jour on faisait des exercices, à Chinon aussi, on dormait sur place, chacun dans une caravane, à deux, les caravanes fixes, après on faisait des exercices. Sur trois semaines, deux jours. C'est très très bien. Et après, ils sont venus ici aussi. Ah voilà. C'est sympa, ou vous respectez du patient. Ou...
Oui.
C'est important. Ou...
Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport aux ateliers ?
Ah, c'est des peintures aussi.
Ah oui.
Ah, voilà. Parce que moi, je suis surtout des écritures. Par exemple, moi, je peins des dessins, des peintures. J'ai des gobelets, à chaque couleur.
C'est vrai.
Voilà. Ouais. Il suffit de connaître le dosage après. Mardi dernier, je suis allé, j'ai eu une bonne année de 19.
Très
j'ai
bien.
Arrangé, j'ai fait mon écriture calligraphique. Voilà.
Ouais. Et avant d'être à la chaîne, vous étiez où ? Ça se passait comment ?
Ah, bah, je suis venu directement ici.
C'est vrai ?
Ah, directement ici.
Ah,
je suis arrivé à 23 ans.
D'accord.
54.
De chez vous ? De chez vos parents ou de chez vous jusqu'ici ?
Ouais, directement.
D'accord.
Puis un bon restaurant aussi.
Oui,
ah bah, non, c'est très important. C'est très important.
Ouais.
C'est un train qui a roulé, qui a roulé.
Oui.
Et c'est fait, on voit d'ailleurs les stagiaires qui vont là-bas. Il y a des chambres.
Les stagiaires sont hébergés là-bas dans
le
wagon.
Oui, voilà, dans le wagon.
Et il y a un wagon restaurant en plus.
Ah, exactement.
Avec le restaurant associatif Le Travers.
Et voilà.
Ouais.
C'est pareil, ça a été soudé aussi.
Oui.
L'Orient Express, non ? L'Orient Express, ça
fait... s'appelait l'Orient Express.
Ah, bah. J'ai pas trop dépensé mon argent dans les restaurants. Hein.
Ah oui.
Ah,
ouais, c'est pas cher au travers.
Ah, c'est pas cher. C'est pas cher, non ?
Et puis on mange bien.
Oui, oui.
C'est très bon.
Ouais, c'est très bon. J'ai déjà travaillé.
Mais oui.
Ah bah, vous vous en souvenez, quoi,
oui.
Ah, venez d'arriver. Il y a une dizaine d'années, ouais. On se souvient bien. Sinon, la chaîne, ça s'agrandit, il y a des travaux.
Oui, c'est vrai.
Ils ont fait une nouvelle salle à manger.
Oui.
Des chambres, le patio.
Oui.
Des nouveaux visiteurs en mission, admission.
Oui.
Fréquemment. Mais j'aime bien la chaîne.
Vous sentez bien?
Oui, j'aime bien la chaîne. J'aime bien la chaîne. Avec le pour et le contre, bien sûr, comme partout.
Bah oui.
Mais c'est plutôt bien que pas bien, ça c'est sûr et certain.
Voilà, c'était le témoignage de Marie-Hélène. Des réactions à ce témoignage?
Oui, je crois que Marie-Hélène maîtrise beaucoup de choses. Je trouve ça chouette. Elle s'intéresse à la vie associative ici, à la Chenée. Et moi, ça m'apprend beaucoup de choses sur les ateliers que je ne connaissais pas. Donc, je vais m'abonner. Ça me fera passer le temps et positivement.
Oui, vous avez l'air sensible hein, à ça, à cette notion de de temps que ça fait ça repose, ça fait oublier les soucis.
Oui, ouais. Exactement.
François.
Oui, par rapport au discours de Marie-Hélène, je trouve qu'il est très intéressant. Alors moi aussi, ça m'est arrivé de partir souvent dans les détails et c'est vrai que c'est très détaillé son discours. Voilà, à peu près tout. C'est vraiment, elle pousse vraiment les difficultés, par exemple, dans l'écriture écriture poésie, où c'est vraiment détaillé. Elle prend le temps de bien tout décrire. Enfin, vraiment, c'est très détaillé. Et c'est vrai que j'aime bien les discours bien détaillés, très détaillés, comme celui de Marie-Hélène qu'on vient d'écouter. Merci.
Merci, François. Rémi, une petite réaction.
Oui, Marie-Hélène fait partie des personnes les plus investies dans les ateliers. Et je crois aussi dans les contrats de la clinique, donc ça ne m'étonne pas d'entendre son témoignage. Et sur les ateliers, moi j'en ai toujours fait, donc, parce que je voulais être en mouvement et pas rester seul dans mon coin. Voilà, c'est très, on va dire, thérapeutique. Quoi. C'est très thérapeutique. Et puis on est avec les soignants, donc il y a une espèce de... On est sur un pied d'égalité avec les soignants quelque part, même si on sait bien qu'on ne vient pas pour les mêmes raisons à la clinique. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.
Alors, je tiens quand même à dire que Marie-Anne nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Entre-temps. Donc,
voilà. Moi, ce que je retiens, je n'ai pas tout écouté, puisque j'arrive seulement, mais je l'avais écouté une autre fois, Marie-Hélène, et je trouve, moi, ce que je retiens, c'est le plaisir qu'elle arrive à communiquer, ce plaisir qu'elle a lorsqu'elle participe à un atelier. Voilà. Ouais. Et oui, ça m'a évoqué certains anciens souvenirs. Et c'est extraordinaire la manière dont elle en parle.
Vous participez encore à des ateliers aujourd'hui?
Aujourd'hui, plus tellement, parce que je fais partie du bureau du conseil d'administration du club et que je suis souvent investie par des tâches plus administratives, qui ne sont pas forcément toujours très agréables, mais en fait, qu'il faut faire, parce que c'est important, c'est une grosse association. Mais je participe, par exemple, à l'atelier radio, et j'ai vraiment un grand plaisir à y participer. Mais autrefois, j'ai participé à des ateliers, entre autres, l'atelier peinture. J'étais complètement tétanisée quand je suis arrivée dans cet atelier, en me disant, c'est pas possible, moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais rien faire... Et au fil du temps, j'ai apprivoisé ce que Will nous apprenait et j'ai vraiment éprouvé du plaisir. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis mis à peindre.
Oui.
Voilà.
Et toujours aujourd'hui, vous continuez?
Alors aujourd'hui, non, j'ai arrêté, mais il se peut que je reprenne ça un jour. Hein, voilà. Mais c'est vraiment le plaisir que j'avais, quoi. La découverte, de savoir que j'étais jamais allée dans un atelier de peinture, etc. Et je me sentais vraiment complètement néophyte et puis complètement inhibée, quoi. Et après, c'était un véritable plaisir. J'en ratais pas un d'atelier.
Le temps passe très vite.
Oui.
On va faire une petite pause musicale.
Oui.
Et puis, on se retrouve tout de suite après. Rémi, vous nous présentez ce qu'on va écouter, là?
Oui, tout à fait. C'est un morceau de Duplessis et les Violons du Monde qui joueront à la fête de la Chênaie le vendredi 14 juin au soir. Alors, un des violonistes est un musicien et chanteur mongol qui a chanté à la Chênaie en 2015 avec les Violons Barbares.
Swing. Hein. Deuxième partie de l'émission Kaléidoscope, la psychiatrie en couleur sur Studio Zef. Julien, je te passe tout de suite la parole pour nous parler dans cette deuxième partie des contrats. Oui.
Les contrats, c'est un deuxième outil. Alors, en complément des ateliers, pour occuper les journées, les ateliers sont pensés plutôt comme la partie loisir et les contrats comme la même partie plutôt travail. La chose en plus qui est très importante, c'est la notion d'engagement. Ça consiste à s'impliquer dans la vie du collectif en participant au ménage, à la préparation des repas, au service, à l'entretien des locaux. Et cette notion d'engagement est capitale. On formalise sur papier avec les patients un contrat où il s'engage à venir travailler pendant un mois, à faire la même tâche, à telle fréquence. Ça s'apparente aussi à un contrat de soins où voilà, on s'engage et à aider le collectif et nous aussi du coup à venir faire une tâche qui va nous faire du bien ou au moins nous éloigner de certains soucis.
Et là aussi c'est souple, c'est-à-dire que la personne certes elle s'engage, mais à la moindre fatigue ou problème, c'est possible d'arrêter et de revoir un petit peu les conditions de ce contrat.
C'est ça. On se concerte entre soignants aussi pour savoir si un contrat est adapté pour un patient. Est-ce que c'est judicieux de lui faire de la cuisine ? Qu'est-ce que ça va lui faire travailler. Quand on rencontre des difficultés aussi, on se concerte. Il y a différents secteurs, du coup. à la clinique avec chacun qui comporte des moniteurs qui se chargent d'accueillir des patients, avec chacun une charge précise. Comme j'ai cité tout à l'heure, voilà, les fonctions un peu régaliennes, l'alimentation, l'entretien, l'entretien du linge aussi, des locaux. Et l'intérêt d'avoir des moniteurs dans ces tâches-là et pas des professionnels spécialisés, c'est d'avoir du coup voilà, ce lien avec les autres moniteurs qui sont dans d'autres secteurs qu'on appelle les secteurs de chambre et qui là ont plutôt un rôle de suivi général des parcours de soins des patients. Donc l'intérêt d'avoir aussi des moniteurs dans ces fonctions un peu régaliennes et de contrat, ça permet de faire le lien au sein de toute l'équipe, de croiser les regards. Et quand on voit qu'une personne est en difficulté, on en discute et on voit comment on peut adapter.
Donc pour que ce soit bien clair, par exemple, à la cuisine, il n'y a pas de cuisinier professionnel.
Non, ce sont des moniteurs. Alors dans le profil monitoral, on a différentes formations, des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, des gens qui viennent d'autres horizons, qui ne sont pas forcément soignants de formation, mais qui ont cette envie d'être chénéen et de soigner et d'apporter. Et non, du coup, il faut avoir envie de faire de la cuisine si on va aller travailler en cuisine. Il faut avoir envie d'accueillir les patients, il faut avoir envie de se retrouver autour de l'alimentation. Et pareil, qu'on décline autour de tous les différents contrats. On peut peut-être un petit peu énumérer aussi les différents contrats.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter?
Donc cuisine.
Standard.
Standard, Rémi,
standard.
Oui.
La distribution du courrier, par exemple. Quand les patients reçoivent du courrier, il y a un pensionnaire volontaire par jour désigné qui va distribuer le courrier à chacun.
Le bar associatif, les contrats où on fait des permanences au bar, où on sert au bar associatif du club, au Boissier.
Ouais.
La bibliothèque.
La petite boutique.
C'est quoi la petite boutique
hein? Moi, je le fais tous les lundis. La petite boutique, c'est un endroit ouvert tous les jours de 11h à midi. Et on peut trouver tout un tas de trucs. Des briquets, des enveloppes, des cartes postales faites maison hein, par le club photo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des blocs, des timbres, des blocs-notes, des crayons, des stylos, des gommes, des clés USB, des t-shirts la chaînée. Un verre doseur, etc.
Très important, on peut avoir besoin du verre doseur. Est-ce que par exemple, si vous manque du dentifrice, on peut trouver ça à la petite boutique?
À la Calo plutôt. Ah. Non, ah oui, mais c'est surtout les gens qui ont du mal à faire des courses toutes seules, tout ça. Là, on peut les dépanner.
Le truc de dépannage de dernière minute. Mmh.
Alors ça se trouve plutôt à la Calo, les trucs de.
La Calo.
La Calo. La Calo. Calo, je crois en grec, ça veut dire beauté, non? Ouais. C'est notre salon de beauté. Ouais,
ouais. Ah, il y a un salon de beauté.
Voilà, qui est ouvert deux fois par semaine.
Ouais.
Donc bah là, c'est pareil, il y a deux monitrices qui viennent. Et c'est un grand moment de détente où on se fait laver les cheveux, on se fait masser le crâne, on se fait faire plein de trucs sympas. Et on se fait faire les ongles, les shampoings. C'est très, très relaxant.
C'est bien ou pas?
Je sais pas si toi, tu y allais. Roselyne, t'es pas allée encore?
Ah, non, voilà. Encore une chose que vous avez à faire, Roselyne. Vous allez être débordée.
C'est payant ou pas?
Bah non.
Un petit peu.
Il y a quelques petits soins qui sont facturés pour amortir les coûts des produits.
Des
mais
produits,
c'est l'affaire de quelques centimes.
D'accord. Rémi?
Oui, sur le collectif, les contrats collectifs. Moi, je voulais ajouter que c'est un engagement que, bien sûr, on peut décliner selon le moment, hein, c'est sûr que c'est pas rigide. Donc ça, d'ailleurs, on signe des contrats, mais tous les mois. Et les contrats donnent droit à un versement symbolique d'argent. Par exemple, si vous êtes trois fois par semaine à la cuisine, vous avez 12 euros par mois. Voilà. Apparemment, avant, il n'y avait pas de paiement. Et puis, personnellement, moi, ça m'a permis de maintenir la tête hors de l'eau quand j'allais vraiment mal. Parce que ça obligeait à se mobiliser, quoi. On avait une contrainte, ça donnait une certaine discipline. Et pour moi, c'était important, quoi. C'était primordial même, de me sortir de mon lit et d'aller faire le contrat, quoi.
Il y a aussi les contrats restauration dans notre super restaurant associatif, le Train Vert.
Ouais.
Voilà, donc c'est très agréable de travailler là-bas. Donc c'est un resto qui est ouvert à tous, hein, en fait. Hein. C'est un restaurant ouvert tous les midis à peu près, sauf le mercredi. Et le soir, les soirs où il y a l'EPIC, la conférence de l'EPIC, ou bien les soirs de concert. Voilà, et donc c'est un restaurant, donc, comme je disais, associatif, qui est Donc ouvert sur l'extérieur.
Tout le monde peut venir manger. Hein.
Tout à fait.
On y mange très bien d'ailleurs.
Merci.
Gwenvelle.
Comme disait Rémi, oui, les contrats donnent lieu à une gratification financière. Évidemment, ce qui est rétribué à ce moment-là, ce n'est pas du tout la production, on n'est pas du tout dans ce rapport-là. Et c'est tout l'intérêt du club aussi, du club thérapeutique, c'est qu'en tant qu'association à but non lucratif, on est vraiment en dehors du milieu de l'économie. On est en dehors même de toute question de production qui peuvent exister, par exemple, dans des ESAT ou autres. On est vraiment dans un rapport d'activité, entre guillemets, de travail, parce qu'effectivement, ça rend service à la collectivité, ça donne un coup de main et ça permet aux moniteurs de se dégager du temps, notamment aussi pour faire des ateliers. Donc du coup, c'est des services rendus puisqu'on peut passer du temps de deux façons différentes à travers les ateliers et les contrats avec les patients. Et cette gratification financière, elle est à la fois symbolique, c'est pas du tout du salariat. Auparavant, c'était le club qui donnait de l'argent. Maintenant, pour être en clou avec les réglementations actuelles, c'est la clinique. Ça représente à peu près 1 700 € qui sont redistribués aux patients en fonction de leur engagement dans ce travail-là qu'ils font dans leur contrat. Sachant que, pour illustrer, oui, le fait que ce n'est pas du tout un rapport de production, de productivité, c'est vraiment une question d'engagement. Et c'est vraiment la seule question qui anime et les pensionnaires et les soignants, c'est est-ce que ce travail est profitable à la personne ou pas. Et notamment, il y a plein d'exemples sur la question des contrats. Je me souviens notamment d'une patiente qui m'avait marqué, qui avait un contrat en cuisine qui consistait à disposer les desserts, des yaourts, le soir, une fois par semaine, dans des assiettes. Et donc, il s'agissait de mettre 6 yaourts, puisqu'on a des tables de 6, dans une vingtaine d'assiettes, parce qu'on sert une vingtaine de tables chaque soir. Et là où un certain nombre de personnes peuvent le faire en quelques minutes, elle mettait entre 40 et 45 minutes. Et l'objet de son contrat, elle en était très fière, parce que c'était sa participation vraiment à la collectivité, malgré toutes ses activités, malgré toutes ses difficultés. Et ces difficultés, elles étaient vraiment réelles, c'est-à-dire qu'elle avait des angoisses. Elle avait peur de mourir à chaque instant, il fallait toujours la réassurer là-dessus. Et c'était assez même impressionnant parfois pour les autres personnes quand elle venait. Mais voilà, c'était sa petite participation. On est vraiment dans la métaphore du colibri tous les jours. Hein. C'est vraiment ça. Donc ça rend parfois modeste quand on voit le prix de chaque petite chose. Je me souviens, mais ça cultive aussi la bienveillance et un regard vraiment bienveillant sur ce qui est fait. Je me souviens d'une psychiatre qui avait dit en salle à manger, on avait servi des pamplemousses le midi. Et puis elle a fait « Oh, ils sont coupés dans l'autre sens, comme c'est original !» et tout le monde imaginait à table que oui, le patient qui avait fait ça le midi, le matin pour préparer le repas, il pensait à tout, sauf il pensait vraiment pas à ça. Voilà. Donc, mais on est vraiment dans un vivre ensemble où on cultive aussi la bienveillance par rapport à tout ce qui peut se passer dans les contrats.
On va continuer à illustrer ce propos avec le témoignage, c'est très court, hein, c'est Christophe qui parle justement d'un contrat.
Alors Christophe, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que tu apprécies dans les contrats, le contrat cuisine que tu fais là?
Bah, j'apprécie d'être dans le mouvement, dans le travail, dans l'action. Ce qui me motive pour travailler, c'est ça, c'est réussir à me mettre en action et à travailler pour le bien de la collectivité. Ça me rend fier de travailler, quoi. C'est pas pour l'argent, c'est pour la gloire, quoi. Voilà, si on peut dire. Voilà, c'est tout.
Et t'as combien de contrats?
J'ai 3 contrats. J'ai un contrat bar, un contrat cuisine et un contrat jardin.
Tu fais beaucoup de contrats dans la semaine?
J'en fais 2, 4, 6... 7, 8.
Ah oui, 8 contrats, ouais, t'as besoin d'être occupé, quoi.
Ouais, ouais. Mm. Sinon, je lis, j'écoute de la musique, je fais un peu de sport, et je vais à la piscine. Enfin, bientôt, j'irai lundi à la piscine, donc j'organise mon temps. J'essaie d'organiser mon temps intelligemment, quoi. Je lis pas mal aussi.
Tu lis pas mal?
Ouais.
D'accord. Donc, les contrats, qu'est-ce que t'en penses pour terminer au final?
Bah, il faut en faire parce que ça aide à dynamiser la dynamique de rétablissement.
De l'établissement?
De rétablissement.
Ah, de rétablissement, oui, d'accord.
En se mettant dans le move, on crée sa propre réussite, quoi, si tu veux.
Oui, Oui, bien sûr. Oui.
On va dans ce sens.
Voilà, c'est pas pour la gloire. Marie-Anne.
Alors, oui, monsieur dit c'est pas pour l'argent, c'est pour la gloire. En 72, c'était pas pour l'argent non plus, les contrats n'étaient pas rémunérés. Mais moi, je dirais pas que c'était pour la gloire. Mais au bout d'une semaine de séjour, on nous proposait effectivement des activités, des contrats. Donc, mais c'était un engagement moral. Moi, je me souviens que j'en avais fait 3 des contrats. Je faisais le standard, la pharmacie et les chauffes. Les chauffes, ça consistait à aller chercher des gens à la gare, à les amener à la clinique, à les ramener à la gare. Et c'était vraiment très important parce que j'avais vraiment l'impression d'être utile. Et puis, ce qui m'importait aussi, c'était que si jamais je manquais à mon engagement, je savais qu'on allait venir me trouver dans ma chambre, qu'on allait me chercher. Et ça me rassurait parce que c'était une façon de veiller sur nous, le fait de... Voilà. Et ça, c'était très rassurant.
On va continuer encore à écouter des témoignages. Et cette fois-ci, c'est Gabrielle qui parle des ateliers et des contrats.
Bonjour Gabrielle.
Bonjour, Laetitia.
Gabrielle, tu es pensionnaire à la Chenet depuis combien de temps ?
Depuis, donc je suis arrivée il y a presque 2 ans, le 27 mars 2017, pour être précis, en hôpital de jour. Et ça fait et à temps plein, en hospice complète, le 19 septembre 2016. Voilà. Donc, tout se passe bien pour le moment.
Et là, ouais. Là, je t'ai un peu extirpée d'une activité. Oui. Tu peux nous en parler ?
Donc, j'étais avec Polo au jardin, pas tout à fait. En fait, on faisait du tressage avec du bois au niveau des poteaux qu'on avait peints la semaine dernière, lundi dernier, en fait. Et donc on faisait un peu de tressage, on a disposé des poteaux, des espèces de poteaux métalliques en ferraille qu'on a tapé avec une espèce de gros marteau, je ne sais plus qu'on appelle ça, une espèce de gros marteau. Et puis du coup, voilà, après on a tressé au fur et à mesure, intérieur, extérieur, quoi, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà. Et
ça sera comme des plans de plantation en fait après à l'intérieur.
Oui, après ce sera pour faire pousser effectivement des plantes, d'après ce que m'a dit Polo, il me semble.
L'atelier jardinage, c'est un atelier que tu apprécies particulièrement ?
Oui, que j'affectionne bien. Effectivement, j'y suis le lundi et le vendredi avec Polo, de 10h à 11h. Il m'arrive des fois de rester un peu après 11h même pour lui filer un coup de main, ou de revenir comme aujourd'hui le lundi après-midi pour m'occuper un petit peu. Puis j'aime bien passer du temps aussi avec Polo, c'est un moniteur que j'apprécie beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui et avec d'autres pensionnaires aussi, quoi.
Oui, parce que j'ai vu, vous êtes pas loin de 10 là, vous êtes en nombre.
On est le matin, oui, on est des fois on peut être une bonne dizaine effectivement. Donc Polo doit bien nous encadrer, ça lui fait un peu plus de travail, mais il a l'habitude. Mais voilà, mais il envisage d'acheter un espèce de tableau blanc en fait qu'il mettrait dans son atelier. En fait, pour que chacun inscrive ses jours où ils viennent, en fait, et ce qui nous permettrait de réguler un petit peu les personnes qui viennent à l'atelier pour pas qu'on soit 10-15 d'un seul coup à un jour. Voilà, il envisage d'acheter un tableau blanc pour mettre dans son atelier, c'est ce qu'il m'a dit à peu près.
C'est pour l'organisation. Et voilà. Sinon, tu aimes bien t'occuper des plantes en
général. Oui, je suis assez. Je vais pas dire que j'ai la main verte parce que j'ai pas de jardin chez moi, je vis en appartement donc c'est compliqué. Mais j'ai quand même acheté, j'ai un petit cactus chez moi et un plus gros cactus que j'entretiens. Bon, c'est pas compliqué, hein. J'ai un petit vaporisateur et puis je fais ça tous les premiers de chaque mois. Donc je vaporise un petit peu. Voilà, c'est pas compliqué d'entretien, hein. C'est facile. Voilà,
d'accord.
C'est pas compliqué. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres ateliers que tu affectionnes particulièrement où tu fais
au
surtout...
niveau des contrats ou des activités
Les deux, les activités, les contrats.
Les activités, j'aime bien la randonnée, je la fais tous les mercredis pratiquement, je suis un bon marcheur, j'apprécie, je faisais même de la course à pied avant en club à Vineuil, mais je n'ai pas repris depuis la rentrée, mais voilà, je me dépense pas mal. Qu'est-ce que je fais d'autre ? Musculation aussi 2 fois par semaine, le mercredi matin et le vendredi après-midi.
Tu travailles en restauration ?
Ah, au train vert ? Non, j'ai pas de contrat au train vert, mais j'envisageais peut-être, j'ai déjà un emploi du temps qui est, je fais déjà pas mal d'activités de contrat, donc qui est déjà plutôt bien rempli, mais pourquoi pas envisager un petit, j'avais pensé envisager un petit contrat au train vert, mais je voulais y aller le vendredi, mais ils n'avaient plus de place. Et après, j'ai pas repensé à aller voir. Comment elle s'appelle qui s'en occupe.
Charlotte.
Charlotte, voilà. Donc, mais ça pourrait se faire, mais je te dis, j'ai déjà. Je fais déjà pas mal d'activités.
Donc, pour avoir une idée. Oui. Oui, pour avoir une idée, donc tu fais l'horticulture,
le jardin, donc le jardin. Deux fois par semaine, lundi, vendredi, matin.
La muscu.
La musculation mercredi, vendredi. La randonnée le mercredi après-midi. Donc je file un petit coup de main à Polo aussi le lundi après-midi. Ouais. Où je vais au foot, basket, à la Borde, au gymnase de Courcheverny aussi. J'aime bien, on fait des rencontres sportives de basket et de foot. Et de futsal, voilà. Voilà, et puis quoi d'autre? Et puis qu'est-ce que je fais d'autre? Si, je fais le bar aussi le vendredi matin en première heure aussi. J'aime bien, voilà, souvent avec Lucie.
Alors voilà un jeune homme très actif. Je fais une petite parenthèse pour dire quand même que Rémi et Laetitia, vous êtes vraiment des reporters hors pair. Parce que c'est vous qui avez assuré les témoignages de ces dernières émissions. Hein, c'est bien ça?
Oui.
Voilà. Et ben merci beaucoup. Donc, une petite conclusion avant d'écouter la musique. Marianne, vous vouliez...
Oui, je voulais juste te dire bien sûr, allez-y. Mot. Je suis époustouflée par le nombre d'ateliers que fait Gabriel. Je veux dire, c'est un véritable emploi du temps. Et si je reviens en arrière dans mes souvenirs, je me souviens qu'il y avait quand même une différence au niveau de la temporalité. Par exemple, l'atelier poterie était ouvert tous les jours. Et c'était vraiment un repère très important. Voilà, c'était pas une obligation que d'y aller, mais on savait que c'était ouvert tous les jours. Et c'était un point d'ancrage essentiel, en tous les cas essentiel pour moi.
Mais il y a quand même des ateliers qui continuent à être ouverts tous les jours.
Il y a divers ateliers.
Ouais. Il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part.
Voilà, il y a toujours quelque chose qui se passe quelque part. Mais voilà, il faut avoir... il faut être gestionnaire hein, pour gérer son emploi du temps à la Chénet maintenant.
Et vous savez de quoi vous parlez. Gwenvel, un petit mot de la fin.
Oui, comme on a parlé là des ateliers des contrats en psychiatrie, c'est vrai qu'un point peut-être pour les auditeurs qui est important de souligner, c'est que en psychiatrie, la maladie mentale vraiment fait soulever des questions aux patients qui sont souvent profondément existentielles. Et plusieurs patients vivent avec cette question-là, comment vivre tout simplement, et les ateliers, les contrats, les activités, la vie quotidienne qui s'organise et l'ambiance collective qui peut graviter autour d'eux regorgent d'occasions justement pour préciser leurs questions et la modeler avec autre chose, et notamment comment vivre en vivant des expériences agréables dans les ateliers. Qu'est-ce qu'on veut faire de ses mains, par exemple, est-ce qu'on veut manipuler de la couleur, de la terre glaise, du papier, des mots, de la musique ou d'autres choses. Ça c'est pour les ateliers, pour les contrats il y a plein de choses à faire aussi avec le jardinage, la cuisine, etc. Et c'est un autre enjeu aussi, c'est que justement dans les contrats, le fait de se rendre utile, le fait que une partie de la collectivité compte sur nous, le fait qu'on compte sur les patients, c'est très important et c'est souvent ce qu'on entend, puisque leur activité, ce qu'ils font, a de l'importance à nos yeux, aux yeux de tout le monde, puisque ça contribue à une sorte d'œuvre commune qu'on refabrique tous les jours, au quotidien. Et ça, c'est vrai que ça apporte autre chose et c'est un levier thérapeutique qui est vraiment très important pour que les personnes se sentent bien là où elles sont et puissent vivre ensemble. C'est très valorisant et très gratifiant. C'est souvent ce qui ressort des contrats.
Merci beaucoup à tous et à toutes. Avant de terminer, je vais laisser François présenter le dernier morceau de musique qu'on va entendre dans cette émission.
Donc nous vous présentons le morceau que vous allez écouter. Le titre s'appelle La Colère et le groupe s'appelle Astérotypie. Merci.
Je rappelle que cette émission est podcastable sur le site de studiosf.fr. Vous pouvez l'écouter, la diffuser, la réécouter autant que vous voulez. Et je vous dis au mois prochain.
Hein ? Très bien.
On va faire ça. Merci à tous. Au revoir.
C'est nous. Au revoir.
Yes, c'est cool. Ouais.
Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui... qui me met en colère, c'est quand parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes. J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez. J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important. J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave. J'en ai marre, mais ils s'en foutent. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. C'est ça qui me met en colère, 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 c'est ça qui me met en colère. On m'a crié dessus parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi. Je n'y comprends rien. Mon père aussi me crie dessus. Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre. J'en ai marre des contraintes, le conditionnement tous les lundis, les échauffements de théâtre, ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre. J'aime pas qu'on me dise, il faut que tu dormes la nuit. Il faut que ça s'arrête maintenant. Je n'aime pas non plus quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve. Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit « Désolé monsieur, il n'y en a plus !» Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent « Ha ha, ha ha, regardez, il fait le fou, il s'excite, ha ha !» Il secoue des mains. Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. Il y a des gens qui disent que je suis fou. Ce qui me met en colère, c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou. C'est ça qui me met en colère. 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 C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère. C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère.